Chapitre 6 Smolensk, suite de la retraite. Le 9 novembre, on avait enfin gagné Smolensk. Un ordre de Bonaparte avait défendu d'y laisser entrer personne, avant que les postes n'eussent été remis à la garde impériale. Des soldats du dehors confluent au pied des murailles. Les soldats du dedans se tiennent renfermés. L'air retentit des imprécations des désespérés forclos, vêtus de sales lévites de cosaques, de capotes rapetassées, de manteaux et d'uniformes en loques, de couvertures de lit ou de cheval, la tête couverte de bonnets, de mouchoirs roulés, de shakos défoncés, de casques faussés et rompus. Tout cela sanglant ou neigeux, percé de balles ou haché de coups de sabre. Le visage hâve et dévalé, les yeux sombres et étincelants, il regardait au haut des remparts en grinçant les dents, ayant l'air de ces prisonniers mutilés qui, sous Louis le Gros, portaient dans leur main droite leur main gauche coupée. On les eût pris pour des masques en furie ou pour des malades affolés échappés des hôpitaux. La jeune et la vieille garde arrivèrent. Elles entrèrent dans la place incendiée à notre premier passage. Des cris s'élèvent contre la troupe privilégiée. L'armée n'aurait-elle jamais que ses restes? Ces cohortes faméliques courent tumultuairement au magasin comme une insurrection de spectres. On les repousse, on se bat, les tués restent dans les rues, les femmes, les enfants, les mourants sur les charrettes. L'air était empesté de la corruption d'une multitude d'anciens cadavres. Des militaires étaient atteints d'imbécillité ou de folie. Quelques-uns, dont les cheveux s'étaient dressés et tordus, blasphémant ou riant d'un rire hébété, tombaient morts. Bonaparte exhale sa colère contre un misérable fournisseur impuissant, dont aucun des ordres n'avait été exécuté. L'armée de 100 000 hommes, réduite à 30 000, était côtoyée d'une bande de 50 000 traîneurs. Il ne se trouvait plus que 1 800 cavaliers montés. Napoléon en donna le commandement à M. de la Tour Maubourg. Cet officier, qui menait les cuirassiers à l'assaut de la grande redoute de Borodino, eut la tête fendue de coups de sabre. Depuis, il perdit une jambe à Dresde. Apercevant son domestique qui pleurait, il lui dit « De quoi te plains-tu? Tu n'auras plus qu'une botte à cirer. » Ce général, resté fidèle au malheur, est devenu le gouverneur de Henri V dans les premières années de l'exil du jeune prince. J'ôte mon chapeau en passant devant lui, comme en passant devant l'honneur. On séjourna par force jusqu'au 14 dans Smolensk. Napoléon ordonna au maréchal Ney de se concerter avec Davout et de démembrer la place en la déchirant avec des fougasses. Pour lui, il se rendit à Krasnoï, où il s'établit le 15, après que cette station eut été pillée par les Russes. Les moscovites rétrécissaient leur cercle. La grande armée dite de Moldavie était dans le voisinage. Elle se préparait à nous cerner tout à fait et à nous jeter dans la Bérézina. Le reste de nos bataillons diminuait de jour en jour. Kutuzov, instruit de nos misères, remuait à peine. « Sortez seulement un moment de votre quartier général !» s'écriait Wilson. « Avancez-vous sur les hauteurs !» Vous verrez que le dernier moment de Napoléon est venu. La Russie réclame cette victime. Il n'y a plus qu'à frapper, une charge suffira. Dans 2 heures, la face de l'Europe sera changée. » Cela était vrai. Mais il n'y aurait eu que Bonaparte de particulièrement frappé, et Dieu voulait appesantir sa main sur la France. Kutuzov répondait : « Je fais reposer mes soldats tous les 3 jours. Je rougirai, je m'arrêterai aussitôt si le pain leur manquait un seul instant. J'escorte l'armée française, ma prisonnière. Je la châtie dès qu'elle veut s'arrêter ou s'éloigner de la grande route. Le terme de la destinée de Napoléon est irrévocablement marqué. C'est dans les marais de la Bérézina que s'éteindra le météore en présence de toutes les armées russes. Je leur aurai livré Napoléon, affaibli, désarmé, mourant. C'est assez pour ma gloire. » Bonaparte avait parlé du vieux Kutuzov avec ce dédain insultant dont il était si prodigue. Le vieux Kutuzov, à son tour, lui rendait mépris pour mépris. L'armée de Kutuzov était plus impatiente que son chef. Les Cosaques, eux-mêmes, s'écriaient « Laissera-t-on ces squelettes sortir de leur tombeau ?» Cependant, on ne voyait pas venir le 4e corps, qui avait dû quitter Smolensk le 15 et rejoindre Napoléon le 16 à Krasnoï. Les communications étaient coupées. Le prince Eugène, qui menait la queue, essaya vainement de les rétablir. Tout ce qu'il put faire, ce fut de tourner les Russes et d'opérer sa jonction avec la garde sous Krasnoï. Mais toujours les maréchaux Davout et Ney ne paraissaient pas. Alors Napoléon retrouva subitement son génie. Il sort de Krasnoï le 17, un bâton à la main, à la tête de sa garde réduite à 13 000 hommes, pour affronter d'innombrables ennemis, dégager la route de Smolensk et frayer un passage aux 2 maréchaux. Il ne gâta cette action que par la réminiscence d'un mot peu proportionné à son masque. « J'ai assez fait l'empereur, il est temps que je fasse le général. » Henri IV, partant pour le siège d'Amiens, avait dit « J'ai assez fait le roi de France, il est temps que je fasse le roi de Navarre. » Les hauteurs environnantes, au pied desquelles marchait Napoléon, se chargeaient d'artillerie et pouvaient à chaque instant le foudroyer. Il y jette un coup d'œil et dit « Qu'un escadron de mes chasseurs s'en empare !» Les Russes n'avaient qu'à se laisser rouler en bas, leur seule masse l'eût écrasée. Mais, à la vue de ce grand homme et des débris de la garde serrés en bataillons carrés, ils demeurèrent immobiles, comme fascinés. Son regard arrêta 100 000 hommes sur les collines. Kutuzov, à propos de cette affaire de Krasnoï, fut honoré à Pétersbourg du surnom de Smolensky, apparemment pour n'avoir pas, sous le bâton de Bonaparte, désespéré du salut de la République. Chapitre 7. Passage de la Bérézina. Après cet inutile effort, Napoléon repassa le Dniepr le 19 et vint camper à Ortcha. Il y brûla les papiers qu'il avait apportés pour écrire sa vie dans les ennuis de l'hiver, si Moscou, restée entière, lui eût permis de s'y établir. Il s'était vu forcé de jeter dans le lac de Semlevo l'énorme croix de Saint-Jean. Elle a été retrouvée par des Cosaques et replacée sur la tour du grand Ivan. À Ortcha, les inquiétudes étaient grandes. Malgré la tentative de Napoléon pour la rescousse du maréchal Ney, il manquait encore. On reçut enfin de ses nouvelles à Barani. Eugène était parvenu à le rejoindre. Le général Gourgaud raconte le plaisir que Napoléon en éprouva, bien que les bulletins et les relations des amis de l'empereur continuent de s'exprimer avec une réserve jalouse, surtout les faits qui n'ont pas un rapport direct avec lui. la joie de l'armée fut promptement étouffée. On passait de péril en péril. Bonaparte se rendait de Kokanov à Toloskim lorsqu'un aide de camp lui annonça la perte de la tête du pont de Borisov, enlevée par l'armée de Moldavie au général Dombrovski. L'armée de Moldavie, surprise à son tour par le duc de Reggio dans Borisov, se retira derrière la Bérézina après avoir détruit le pont. Tchitchakov se trouvait ainsi en face de nous, de l'autre côté de la rivière. Le général Corbino, commandant une brigade de notre cavalerie légère, renseigné par un paysan, avait découvert au-dessous de Borisov le gué de Veselovo. Sur cette nouvelle, Napoléon, dans la soirée du 24, fit partir de Bobre, Desblé et Chasseloup avec les pontonniers et les sapeurs. Ils arrivèrent à Studianka sur la Bérézina au gué indiqué. Deux ponts sont jetés. Une armée de 40 000 Russes campait aux bords opposés. Quelle fut la surprise des Français lorsqu'au lever du jour, ils aperçurent le rivage désert et l'arrière-garde de la division de Tchaplitz en pleine retraite. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Un seul boulet, le feu de la pipe d'un Cosaque, eussent suffi pour mettre en pièces ou pour brûler les faibles pontons de Desblé. On court avertir Bonaparte, il se lève à la hâte, sort, voit et s'écrie « J'ai trompé l'amiral !» L'exclamation était naturelle. Les Russes avortaient au dénouement et commettaient une faute qui devait prolonger la guerre de 3 années. Mais leur chef n'avait point été trompé. L'amiral Tchitchakov avait tout aperçu. Il s'était simplement laissé aller à son caractère. Quoique intelligent et fougueux, il aimait ses aises. Il craignait le froid, restait au poêle et pensait qu'il aurait toujours le temps d'exterminer les Français quand ils se seraient bien chauffés. Il céda à son tempérament. Retiré aujourd'hui à Londres, ayant abandonné sa fortune et renoncé à la Russie, Tchitchakov a fourni au Quarterly Review de curieux articles sur la campagne de 1812. Il cherche à s'excuser, ses compatriotes lui répondent « c'est une querelle entre les Russes ». Hélas, si Bonaparte, par la construction de ces deux ponts et l'incompréhensible retraite de la division de Tchaplitz était sauvé, les Français ne l'étaient pas. Deux autres armées russes s'aggloméraient sur la rive du fleuve que Napoléon se préparait à quitter. Ici, celui qui n'a point vu doit se taire et laisser parler les témoins. Le dévouement des pontonniers dirigés par Desblé, dit Chambray, vivra autant que le souvenir du passage de la Bérézina. Quoique affaiblis par les maux qu'ils enduraient depuis si longtemps, quoique privés de liqueurs et d'aliments substantiels, on les vit, bravant le froid qui était devenu très rigoureux, se mettre dans l'eau quelquefois jusqu'à la poitrine. C'était courir à une mort presque certaine. Mais l'armée les regardait. Ils se sacrifièrent pour son salut. Le désordre régnait chez les Français, dit à son tour M. de Ségur. Et les matériaux avaient manqué aux deux ponts. Deux fois, dans la nuit du 26 au 27, celui des voitures s'était rompu et le passage en avait été retardé de 7 heures. Il se brisa une troisième fois le 27, vers 4 heures du soir. D'un autre côté, les traîneurs dispersés dans les bois et dans les villages environnants n'avaient pas profité de la première nuit, et le 27, quand le jour avait reparu, tous s'étaient présentés à la fois pour passer les ponts. Ce fut surtout quand la garde sur laquelle il se réglait s'ébranla. Son départ fut comme un signal. Ils accoururent de toutes parts. Ils s'amoncelèrent sur la rive. On vit en un instant une masse profonde, large et confuse d'hommes, de chevaux et de chariots, assiéger l'étroite entrée des ponts qu'elle débordait. Les premiers, poussés par ceux qui les suivaient, repoussés par les gardes et par les pontonniers, ou arrêtés par le fleuve, étaient écrasés, foulés aux pieds, ou précipités dans les glaces que charriait la Bérézina. Il s'élevait de cette immense et horrible cohue tantôt un bourdonnement sourd, tantôt une grande clameur, mêlée de gémissements et d'affreuses imprécations. Le désordre avait été si grand que vers 2 heures, quand l'empereur s'était présenté à son tour, il avait fallu employer la force pour lui ouvrir un passage. Un corps de grenadiers de la garde et la tour Maubourg renoncèrent, par pitié, à se faire jour au travers de ces malheureux. La multitude immense entassée sur la rive, pêle-mêle avec les chevaux et les chariots, y formait un épouvantable encombrement. Ce fut vers le milieu du jour que les premiers boulets ennemis tombèrent au milieu de ce chaos. Ils furent le signal d'un désespoir universel. Beaucoup de ceux qui s'étaient lancés les premiers de cette foule de désespérés, ayant manqué le pont, voulurent l'escalader par ses côtés. Mais la plupart furent repoussés dans le fleuve. Ce fut là qu'on aperçut des femmes au milieu des glaçons, avec leurs enfants dans leurs bras, les élevant à mesure qu'elles s'enfonçaient. Déjà submergées, leurs bras raidis les tenaient encore au-dessus d'elles. Au milieu de cet horrible désordre, le pont de l'artillerie creva et se rompit. La colonne engagée sur cet étroit passage voulut en vain rétrograder. Le flot d'hommes qui venait derrière, ignorant ce malheur, n'écoutant pas les cris des premiers, poussèrent devant eux et les jetèrent dans le gouffre où ils furent précipités à leur tour. Tout alors se dirigea vers l'autre pont. Une multitude de gros caissons, de lourdes voitures et de pièces d'artillerie y affluèrent de toutes parts. Dirigés par leurs conducteurs et rapidement emportés sur une pente raide et inégale, au milieu de cet amas d'hommes, elles broyèrent les malheureux qui se trouvèrent surpris entre elles. Puis, s'entrechoquant, la plupart, violemment renversés, assommèrent dans leur chute ceux qui les entouraient. Alors des rangs entiers d'hommes éperdus, poussés sur ces obstacles, s'y embarrassent, culbutent et sont écrasés par des masses d'autres infortunés qui se succèdent sans interruption. Ce flot de misérables roulait ainsi les uns sur les autres. On n'entendait que des cris de douleur et de rage. Dans cette affreuse mêlée, les hommes foulés et étouffés se débattaient sous les pieds de leurs compagnons, auxquels ils s'attachaient avec leurs ongles et leurs dents. Ceux-ci les repoussaient sans pitié comme des ennemis. Dans cet épouvantable fracas d'un ouragan furieux, de coups de canon, du sifflement de la tempête, de celui des boulets, des explosions des obus, de vociférations, de gémissements, de jurements effroyables. Cette foule désordonnée n'entendait pas les plaintes des victimes qu'elle engloutissait. Les autres témoignages sont d'accord avec les récits de M. de Ségur. Par leur collation et leurs preuves, je ne citerai plus que ce passage des mémoires de Vaudoncourt. La plaine, assez grande, qui se trouve devant Vézelovo, offre le soir un spectacle dont l'horreur est difficile à peindre. Elle est couverte de voitures et de fourgons, la plupart renversés les uns sur les autres et brisés. Elle est jonchée de cadavres d'individus non militaires, parmi lesquels on ne voit que trop de femmes et d'enfants traînés à la suite de l'armée jusqu'à Moscou, ou fuyant cette ville pour suivre leurs compatriotes, et que la mort avait frappé de différentes manières. Le sort de ces malheureux, au milieu de la mêlée des deux armées, fut d'être écrasé sous les roues des voitures ou sous les pieds des chevaux. Frappé par les boulets ou par les balles des deux parties, noyé en voulant passer les ponts avec les troupes, ou dépouillé par les soldats ennemis et jeté nu sur la neige, où le froid termina bientôt leur souffrance. Quel gémissement Bonaparte a-t-il pour une pareille catastrophe, pour cet événement de douleur, un des plus grands de l'histoire, pour des désastres qui surpassent ceux de l'armée de Cambyse? Quel cri est arraché de son âme? Ces quatre mots de son bulletin. Pendant la journée du 26 et du 27, l'armée passa. Vous venez de voir comment. Napoléon ne fut pas même attendri par le spectacle de ces femmes élevant dans leurs bras leurs nourrissons au-dessus des eaux. L'autre grand homme qui par la France a régné sur le monde, Charlemagne, grossier barbare apparemment, chanta et pleura, poète qu'il était aussi, l'enfant englouti dans l'Èbre en se jouant sur la glace. Trux puer ad stricto glacie dum ludit in Ebro. Le duc de Bellune était chargé de protéger le passage. Il avait laissé en arrière le général Partuno, qui fut obligé de capituler. Le duc de Reggio, blessé de nouveau, était remplacé dans son commandement par le maréchal Ney. On traverse les marais de la Gaïna. La plus petite prévoyance des Russes aurait rendu les chemins impraticables. À Malo d'Exno, le 3 décembre, se trouvèrent toutes les estafettes arrêtées depuis 3 semaines. Ce fut là que Napoléon médita d'abandonner le drapeau. « Puis-je rester, disait-il, à la tête d'une déroute ?» À Smorgoni, le roi de Naples et le prince Eugène le pressèrent de retourner en France. Le duc d'Istrie porta la parole. Dès les premiers mots, Napoléon entra en fureur. Il s'écria « Il n'y a que mon plus mortel ennemi qui puisse me proposer de quitter l'armée dans la situation où elle se trouve. » Il fit un mouvement pour se jeter sur le maréchal, son épée nue à la main. Le soir, il fit rappeler le duc d'Istrie et lui dit « Puisque vous le voulez tous, il faut bien que je parte. » La scène était arrangée. Le projet de départ était arrêté lorsqu'elle fut jouée. M. Fin assure en effet que l'empereur s'était déterminé à quitter l'armée pendant la marche qui le ramena le 4 de Malo d'Exno à Biclitsa. Telle fut la comédie par laquelle l'immense acteur dénoua son drame tragique. À Smorgoni, l'empereur écrivit son 29e bulletin. Le 5 décembre, il monta sur un traîneau avec M. de Caulaincourt. Il était 10 heures du soir. Il traversa l'Allemagne, caché sous le nom de son compagnon de fuite. À sa disparition, tout s'abîma. Dans une tempête, lorsqu'un colosse de granit s'ensevelit sous les sables de la Thébaïde, nulle ombre ne reste au désert. Quelques soldats, dont il ne restait de vivants que les têtes, finirent par se manger les uns les autres sous des hangars de branches de pin. Des maux qui paraissaient ne pouvoir augmenter se complètent. L'hiver, qui n'avait encore été que l'automne de ces climats, descend. Les Russes n'avaient plus le courage de tirer dans des régions de glace sur les ombres gelées que Bonaparte laissait vagabondes après lui. À Vilna, on ne rencontra que des Juifs qui jetaient sous les pieds de l'ennemi les malades qu'ils avaient d'abord recueillis par avarice. Une dernière déroute abîma le demeurant des Français à la hauteur de Ponary. Enfin, on touche au Niémen. Des 3 ponts sur lesquels nos troupes avaient défilé, aucun n'existait. Un pont, ouvrage de l'ennemi, dominait les eaux congelées. Des 500 000 hommes, de l'innombrable artillerie qui, au mois d'août, avait traversé le fleuve, on ne vit passer, à Kovno, qu'un millier de fantassins réguliers, quelques canons et 30 000 misérables couverts de plaies. Plus de musique, plus de chants de triomphe. La bande à la face violette, et dont les cils figés forçaient les yeux à se tenir ouverts, marchait en silence sur le pont, ou rampait de glaçon en glaçon jusqu'à la rive polonaise. Arrivés dans des habitations échauffées par des poêles, les malheureux expirèrent. Leur vie se fondit avec la neige dont ils étaient enveloppés. Le général Courgaud affirme que 127 000 hommes repassèrent le Niémen. Ce serait toujours, même à ce compte, une perte de 313 000 hommes dans une campagne de 4 mois. Murat, parvenu à Kumbinen, rassembla ses officiers et leur dit « Il n'est plus possible de servir un insensé. Il n'y a plus de salut dans sa cause. Aucun prince de l'Europe ne croit plus à ses paroles ni à ses traités. » De là, il se rendit à Posen et le 16 janvier 1813, il disparut. 23 jours après, le prince de Schwarzenberg quitta l'armée. Elle passa sous le commandement du prince Eugène. Le général York, d'abord blâmé ostensiblement par Frédéric Guillaume et bientôt réconcilié avec lui, se retira en emmenant les Prussiens. La défection européenne commençait. Chapitre 8. Jugement sur la campagne de Russie. Dernier bulletin de la Grande Armée. Retour de Bonaparte à Paris. Harangue du Sénat. Dans toute cette campagne, Bonaparte fut inférieur à ses généraux, et particulièrement au maréchal Ney. Les excuses que l'on a données de la fuite de Bonaparte sont inadmissibles. La preuve est là, puisque son départ, qui devait tout sauver, ne sauva rien. Cet abandon, loin de réparer les malheurs, les augmenta et hâta la dissolution de la Fédération rhénane. Le 29e et dernier bulletin de la Grande Armée, daté de Molodetchino, le 3 décembre 1812, arrivé à Paris le 18, n'y précéda Napoléon que de 2 jours. Il frappa la France de stupeur, quoiqu'il soit loin de s'exprimer avec la franchise dont on l'a loué. Des contradictions frappantes s'y remarquent, et ne parviennent pas à couvrir une vérité qui perce partout. À Sainte-Hélène, comme on l'a vu ci-dessus, Bonaparte s'exprimait avec plus de bonne foi. Ses révélations ne pouvaient plus compromettre un diadème alors tombé de sa tête. Il faut pourtant écouter encore un moment le ravageur. « Cette armée, dit-il dans le bulletin du 3 décembre 1812, si belle le 6, était bien différente dès le 14. Presque sans cavalerie, sans artillerie, sans transport, nous ne pouvions nous éclairer à un quart de lieue. Les hommes que la nature n'a pas trempés assez fortement pour être au-dessus de toutes les chances du sort et de la fortune parurent ébranlés, perdirent leur gaieté, leur bonne humeur, et ne rêvèrent que malheurs et catastrophes. Ceux qu'elle a créés supérieurs à tout conservèrent leur gaieté, leurs manières ordinaires, et virent une nouvelle gloire dans des difficultés différentes à surmonter. Dans tous ses mouvements, l'empereur a toujours marché au milieu de sa garde, la cavalerie commandée par le maréchal duc d'Istrie et l'infanterie commandée par le duc de Danzig. Sa majesté a été satisfaite du bon esprit que sa garde a montré. Elle a toujours été prête à se porter partout où les circonstances l'auraient exigée. Mais les circonstances ont toujours été telles que sa simple présence a suffi et qu'elle n'a pas été dans le cas de donner. Le prince de Neuchâtel, le grand maréchal, le grand écuyer et tous les aides de camp et les officiers militaires de la maison de l'empereur ont toujours accompagné sa majesté. Notre cavalerie était tellement démontée que l'on a dû réunir les officiers, auxquels il restait un cheval, pour en former 4 compagnies de 150 hommes chacune. Les généraux y faisaient les fonctions de capitaine, et les colonels celles de sous-officiers. Cet escadron sacré, commandé par le général Grouchy et sous les ordres du roi de Naples, ne perdait pas de vue l'empereur dans tous ses mouvements. La santé de sa majesté n'a jamais été meilleure. Quel résumé de tant de victoires ! Bonaparte avait dit au directeur : « Qu'avez-vous fait de 100 000 Français, tous mes compagnons de gloire ? Ils sont morts. » La France pouvait dire à Bonaparte : « Qu'avez-vous fait dans une seule course des 500 000 soldats du Niémen, tous mes enfants ou mes alliés ? Ils sont morts. » Après la perte de ces 100 000 soldats républicains regrettés de Napoléon, du moins la patrie fut sauvée. Les derniers résultats de la campagne de Russie ont amené l'invasion de la France et la perte de tout ce que notre gloire et nos sacrifices avaient accumulé depuis 20 ans. Bonaparte a sans cesse été gardé par un bataillon sacré qui ne le perdit pas de vue dans tous ses mouvements. Dédommagement des 300 000 existences immolées. Mais pourquoi la nature ne les avait-elle pas trempées assez fortement ? Elles auraient conservé leurs manières ordinaires. Cette ville chère à Canon méritait-elle que ses mouvements eussent été aussi précieusement surveillés que ceux de Sa Majesté ? Le bulletin conclut, comme plusieurs autres, par ces mots : La santé de Sa Majesté n'a jamais été meilleure. Famille, séchez vos larmes, Napoléon se porte bien. À la suite de ce rapport, on lisait cette remarque officielle dans les journaux. C'est une pièce historique du premier rang. Xénophon et César ont ainsi écrit, l'un la retraite des 10 000, l'autre ses commentaires. Quelle démence de comparaison académique ! Mais laissant à part la bénévole réclame littéraire, on devait être satisfait parce que d'effroyables calamités causées par Napoléon lui avaient fourni l'occasion de montrer ses talents comme écrivain. Néron a mis le feu à Rome, et il chante l'incendie de Troie. Nous étions arrivés jusqu'à la féroce dérision d'une flatterie qui déterrait dans ses souvenirs Xénophon et César, afin d'outrager le deuil éternel de la France. Le Sénat conservateur accourt. Le Sénat, dit Lacépède, s'empresse de présenter au pied du trône de votre majesté impériale et royale l'hommage de ses félicitations sur l'heureuse arrivée de votre majesté au milieu de ses peuples. Le Sénat, premier conseil de l'empereur, et dont l'autorité n'existe que lorsque le monarque la réclame et la met en mouvement, est établi pour la conservation de cette monarchie et l'hérédité de votre trône dans notre 4e dynastie. La France et la postérité le trouveront dans toutes les circonstances fidèle à ce devoir sacré, et tous ses membres seront toujours prêts à périr pour la défense de ce palladium de la sûreté et de la prospérité nationale. Les membres du Sénat l'ont merveilleusement prouvé en décrétant la déchéance de Napoléon. L'empereur répond : « Sénateur, ce que vous me dites m'est fort agréable. J'ai à cœur la gloire et la puissance de la France. » Mais nos premières pensées sont pour tout ce qui peut perpétuer la tranquillité intérieure. Pour ce trône, auquel sont attachées désormais les destinées de la patrie, j'ai demandé à la Providence un nombre d'années déterminées. J'ai réfléchi à ce qui a été fait aux différentes époques, j'y penserai encore. l'historien des reptiles, en osant congratuler Napoléon sur les prospérités publiques, est cependant effrayé de son courage. Il a peur d'être. Il a bien soin de dire que l'autorité du Sénat n'existe que lorsque le monarque la réclame et la met en mouvement. On avait tant à craindre de l'indépendance du Sénat. Bonaparte, s'excusant à Sainte-Hélène, dit « Sont-ce les Russes qui m'ont anéanti ? Non, ce sont de faux rapports, de sottes intrigues, de la trahison, la bêtise, bien des choses enfin qu'on saura peut-être un jour et qui pourront atténuer ou justifier les deux fautes grossières en diplomatie comme en guerre que l'on a le droit de m'adresser. Des fautes qui n'entraînent que la perte d'une bataille ou d'une province permettent des excuses en paroles mystérieuses dont on renvoie l'explication à l'avenir. Mais des fautes qui bouleversent la société et font passer sous le joug l'indépendance d'un peuple ne sont pas effacées par les défaites de l'orgueil. Après tant de calamités et de faits héroïques, il est rude, à la fin, de n'avoir plus à choisir dans les paroles du Sénat qu'entre l'horreur et le mépris.